Grande Voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Je peux vous dire que même pendant les publicités, ça débat en studio avec Catherine et Michel Cotin. Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, chers amis, si vous voulez bien, on va passer à gauche et on va voir ce qui se passe à gauche. En attendant, on en a un de plus. C'est aujourd'hui qu'il se lance, Arnaud Montebourg, que ses adversaires présentent comme un ministre oublié de François Hollande. Il se déclare à 16h dans sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. L'ancien ministre, effectivement, du redressement productif qui a quitté la team Hollande, qui a refusé cette politique, revient sur le devant de la scène. Quelle chance a-t-il, Michel Cotin? Avec le micro, ça
les chances, je ne sais pas.
Monsieur de Moulin.
Est-ce qu'il a surtout la chance de jouer les troublions comme Éric Zemmour à droite? Mais enfin, en attendant, c'est un personnage qui a des convictions. C'est pas des convictions d'hier, c'est des convictions d'aujourd'hui, c'est des convictions d'hier, c'est-à-dire refus de la mondialisation, reprise de l'industrialisation. Et au fond, on s'aperçoit que ce qu'il avait dit il y a des années, au fond, aujourd'hui, c'est absolument le thème de tout le monde. Il faut réindustrialiser, il faut que la mondialisation soit plus juste, que le système, etc. Et lui, en plus, il ajoute à ça un vrai regard sur la sécurité, qui est un regard beaucoup plus proche de celui de Chevènement que de celui des socialistes.
Un regard droitisant, vous diriez ?
Non, je ne dis pas droitisant, c'est le regard de Montebourg. Non. Donc sur la recomposition familiale, il veut absolument donner des chiffres, des chiffres précis par l'Assemblée, au regroupement familial et vraiment surveiller de près les regroupements familiaux.
Non, mais c'est le seul quand même, c'est le seul, Michel a raison, c'est le seul qui porte des idées originales, en tout cas de vraies idées. Et je trouve qu'il fait honneur au débat, moi, à Montebourg. Et c'est bien, justement, qu'il intervienne dans cette campagne électorale sur la démondialisation, sur la souveraineté économique, fabricant français, ne pas faire confiance à l'Europe de manière béate. C'est lui qui dit ça. Il le dit assez bien. Protéger les entreprises françaises stratégiques, comme l'aéronautique, comme Alstom, comme il l'a fait, etc.
C'est le contraire de tout ce qu'ont fait les dirigeants politiques. Et maintenant, on entend au fond Emmanuel Macron dire la même chose, demander la même chose, mais on sait que chez lui, ça n'est pas sûrement une conviction, mais c'est une adaptation au moment, mettons. Mais ce n'est pas le cas de Montebourg.
Tout ce que vous avez dit sur Montebourg, Charles, comme Michel, je le partage. Mais je constate aussi que Montebourg n'a aucune chance d'être le candidat.
Oui.
Là, on parle des candidats qui ont une chance. Non, pourquoi n'a-t-il aucune chance?
Vous regardez le sondage?
Non,
dans le
je ne regarde pas le sondage. Je regarde le parti.
Non, mais on peut le
regarder. Je regarde
aussi.
Le parti socialiste.
Si, il a raison,
mais attendez, le sondage, je m'en fous. Le sondage ne fait que confirmer. Le parti socialiste ne veut pas de Montebourg.
2%.
Le parti socialiste a d'ores et déjà choisi son candidat. Et son candidat, c'est Madame Hidalgo, maire de Paris. Oui. Alors après, qu'elle fasse dans
non,
les.
Mais c'est pourquoi
Oui.
C'est pourquoi je disais, est-ce qu'il sera un trouble fait?
Bah, il sera,
peut-être
un double fait dans la campagne, comme Chevènement l'avait été, avec le résultat final qu'avait été pour Chevènement, c'est-à-dire qu'il ne sera pas le candidat du Parti socialiste.
Catherine.
Non, ce qui est d'ailleurs drôle, c'est qu'il fait acte de candidature aujourd'hui, le 4 septembre. C'était la date à laquelle Jean-Pierre Chevènement, en 2002, en 2001, avait fait, c'était parce que c'est la proclamation de la République et tout ça. Mais Montebourg, il a rallié avec des pincettes François Hollande, en 2012, parce que grâce à sa petite phrase « mon ennemi, c'est la finance » et tout ça. Et lui, il estime que 6 mois après, il a été floué parce qu'il a refusé de reprendre Florange après s'être promis aux ouvriers. Il a lâché les ouvriers. Et là, ça a été une cassure pour... était irrémédiable entre Montebourg et Hollande. C'est-à-dire qu'il dit que 6 mois après avoir été élu, c'est-à-dire que lui, qui était pour le non à l'Europe, et Hollande le oui, en fait, il pense que en faisant ce discours, Hollande avait menti à la gauche, Hollande ne l'a pas soutenu sur Florange alors qu'il avait un repreneur, Hollande et Hérault ont joué contre lui, et ça a été, d'ailleurs il n'a plus jamais parlé depuis 2014 à François Hollande, et il pense que Hollande est le grand traître de la gauche, et donc aujourd'hui s'il veut combattre, enfin, c'est faire connaître ses idées, ce que pourrait être une politique, de gauche de soutien à l'industrie ou ce qu'il en reste.
Par rapport à ce que vient de dire Gérard, où effectivement c'est Hidalgo Uber Alles, hein, on a l'impression que c'est tout le monde suit.
D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est
comment est-ce qu'il va trouver sa place. Il va pas la trouver.
Attendez, pas tous en même
temps. Il est renié par une partie des socialistes, il fait plus partie de la tribu, et donc il n'a aucune chance. Il y aura une primaire, il ne sera pas dans cette primaire, vraisemblablement.
Donc, c'est une candidature de témoignage.
C'est pour ça que c'est toi, je crois, Michel, tu as raison. Tu as fait une vague comparaison avec Zemmour, éventuellement.
Il peut peut-être avoir
une espèce d'effet Zemmour à gauche, un peu comme l'autre aura un effet à droite.
Moi, je le crois. Je crois que le courant Montebourg peut troubler le jeu.
En tout cas, de quelle façon ?
Oui, d'abord parce qu'il a du talent, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Et puis parce que les autres candidats sont faibles.
Chacun a son petit mot.
Parce que la candidature, notamment favorite du Parti Socialiste, appuyée par le premier secrétaire, Olivier Faure, c'est-à-dire Madame Hidalgo, sa candidature démontre qu'elle est trop bobo, elle est trop parisienne, elle est trop écolo, et qui en même temps, d'ailleurs, candidature, qui n'empêche pas une candidature écologiste. Et moi, je crois que Montebourg peut mettre les pieds dans le plat.
Alors, le vrai problème de la gauche, hein, quand même,
Michel Cotin.
C'est pas Montebourg qui
et l'unité.
C'est Jean-Luc Mélenchon. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon, quelque part, asphyxie une candidature unique de la gauche, on sait très bien que ce soit Anne Hidalgo ou que ce soit Montebourg, c'est quand même encore Jean-Luc Mélenchon qui a des clés. Alors on a dit, nous ici, on a dit « Ah, mais il est plus ce qu'il était, etc. » C'est peut-être vrai, il ne fait plus peut-être que 11% des suffrages, ou 12%, je ne sais pas, aujourd'hui.
Ou 8% ce matin dans Le Parisien.
Il est vrai qu'il est... Non, mais il asphyxie le reste. Il asphyxie toute candidature.
Peut-être qu'on va se trouver dans un cas de figure, comme en 2002, où il y avait eu 16 candidats.
Ah oui, mais c'est exactement ce que vous dites, regardez.
Il y avait eu trois candidats trotskistes. Il y avait eu même deux candidats Front National, puisqu'il y avait Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Vous voyez, il y avait tous les candidats de la majorité plurielle, et c'était totalement éclaté. Et c'est intéressant, pourquoi, si on est dans cette position-là, c'est que à peu près on sait qui sera le numéro 1, probablement Emmanuel Macron. Mais qui sera le numéro 2? Eh bien là, on ne le sait plus. Ça peut être, s'il y a une division de l'extrême droite, ça peut être Marine Le Pen ou pas, mais ça peut être un candidat de droite.
Une pause, et on en reparle juste après avec les grandes voix, tout de suite.
Grande Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1, vous les connaissez, c'est Gérard Carrou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On parlait à l'instant justement de ce qui pourrait se passer à gauche et des mélanges qu'on pourrait faire. Alors je ne sais plus quel observateur disait, mais si on mélange le vert au rouge, ça donne du marron, et le marron, ce n'est pas forcément la plus belle des couleurs. Alors du coup, comment on fait,
Michel Cotta ? C'est pas comme ça que ça se passe. Jadot a échoué. Il a essayé, il a fait une ou deux tentatives pour dire c'est nous, les écologistes, nous sommes en pointe du progrès, par conséquent, il faut qu'on dirige la gauche. Et puis là-dessus, on voit bien qu'il y a une compétition avec Anne Hidalgo qui veut leur démontrer que plus vert que moi dans Paris, on ne trouve pas. Alors au fond, Hidalgo, elle veut stocker comme ça le registre des verts. Mais en même temps, elle a quand même plus de crédibilité que tous les verts qu'on entend, à l'exception de Jadot, dire n'importe quoi.
En attendant, elle ne dit rien parce qu'elle n'est pas déclarée.
Non mais si on parle une seconde des écolos, ça vaut la peine d'en parler, étant donné qu'ils représentent en gros un tiers. La gauche fait autour de 30 points et ils sont trois courants à se partager les 30 points selon entre 7 et 10 pour chacun. Les écolos, eux, c'est intéressant. Traditionnellement, les écolos élisent toujours le plus Khmer vert de leur candidat, c'est-à-dire le plus radical. Celui qui, alors tu appelles ça les choses les plus idiotes, on peut avoir tous les qualificatifs qu'on veut,
mais plus complètement
à contre-courant du bon sens, enfin tout ce qu'on veut. Mais donc, dans cette bataille, oui, bien sûr, ils l'ont démontré largement dans le passé, c'est comme ça qu'ils n'ont pas pris les bons candidats et qu'ils ont pris toujours le plus mauvais. Eh bien là, ils s'apprêtent exactement à refaire la même chose, ils vont élire, parce que ce sont les militants verts les plus radicaux qui votent à la primaire des Verts. Donc, ils vont choisir Madame Rousseau. Madame Rousseau, elle est formidable, Madame Rousseau. Écoutez-la, chaque fois qu'elle dit un truc, si vous avez envie de rigoler un peu, écoutez Madame Rousseau. Ça vous donnera du sourire dans la vie. Elle dit des bêtises à chaque fois. Par exemple, elle dit, oui, oui, c'est bien, il faut laisser entrer tous les Afghans, même s'il y a du terrorisme, Madame. Oui, bien sûr, parce que comme ça, on pourra mieux les surveiller chez nous.
Bon, après, mais elle a dit que c'était maladroit.
Oui, oui, après, elle a dit qu'ils ont toujours une stratégie. Je dis une connerie et après, je reviens dessus. C'est ça, c'est la stratégie aussi. Mais enfin, en résultat, le modéré, le plus modéré des écolos, c'est-à-dire M. Jadot, dont tu as parlé, Michel, n'a pratiquement aucune chance d'être choisi par le
et
parti.
C'est, et c'est
ça,
pour
ça sera Mme Rousseau ou M. Piolle.
C'est pour ça que la maire de Paris progresse sur ce terrain-là. Essaye de progresser sur ce terrain-là. Plus vert que moi, tu vois.
Alors, en attendant, oui, Charles Villeneuve.
Oui, non, mais le drame de la gauche, c'est que le Parti Socialiste, qui a toujours été la colonne vertébrale de la gauche, ne l'est plus. Et c'est bien le drame, on le voit. C'est la raison pour laquelle Gérard disait à l'instant que la totalité de la gauche, des multiples candidats, trois au minimum, finalement, ne rassemblent que 30% des électeurs
de gauche.
Ça veut
dire que les écolos ne peuvent pas être le pilier de la gauche.
Ben non, pour l'instant, en tout cas.
Ceci étant, unis 30%, ça fait une bonne base de départ s'ils étaient unis. Le problème, c'est que
c'est ce qu'on appelle le théorème, si ma tante...
Oui,
Catherine, Catherine Ney.
Quoi ? Non, non, moi non. Non, mais alors... parce que Gérard dit, on a envie de rire, oui, quand on vient d'en rire, on devrait en pleurer, voilà. Oui. Moi, mais le maire de Lyon m'a fait rire, là, par exemple, cette semaine, parce qu'il inaugure une école, Monsieur Doucet, avec des jeunes élèves, et là, pour leur montrer qu'il n'y a pas de genre et qu'on peut jouer comme ça, il leur a mis dans un coin d'une cour d'école des copeaux de bois. Et alors là, des copeaux de bois.
C'est difficile de jouer au football avec, ça, c'est vrai.
Donc, pour jouer, tout le monde peut jouer avec des copeaux de bois. Il y a un petit garçon qui lui a dit, mais nous, on s'en fout, c'est que, on veut un ballon,
mais
on veut
des trucs. C'est surtout que ça fait des échardes, hein. je peux en témoigner avec mes jeunes enfants.
Non, mais
je vais
vous dire,
des copeaux de bois, bah oui. Non, mais surtout, ils les avalent aussi. Alors là, je peux vous dire, c'est les urgences.
Oui. Bon, mais voilà, j'ai trouvé ça, qu'un petit garçon l'a amené à la raison pour dire, écoutez, votre histoire de genre, nous, on a envie de laisser nous jouer au ballon.
J'ai une information qui commence à se préciser. On l'a évoqué ce matin dans la matinale d'Europe 1, Éric Zemmour va donc lancer en fin de matinée ce site internet, prépare une tournée, ça s'appelle ce site La Croisée des Chemins, c'est une information Europe 1 de Louis de Ragnel, le polémiste donnera des conférences autour de la sortie de son nouveau livre à travers la France dans une tournée qui prend des allures de campagne électorale à l'approche de l'élection présidentielle. Michel Cotard.
C'est vrai qu'on a l'impression quand même que ça se rapproche, serait-ce que les structures apparaissent. La structure, celle-là, est une première structure, mais je crois qu'il y a des structures plus financières qui vont l'épauler, et des structures politiques, parce qu'après tout, je vous rappelle que dans tout ça, il faut quand même avoir 500 signatures.
Non, mais quand Michel dit plus financières, c'est-à-dire que d'abord, l'organisation est en train de se mettre en place, avec l'apport d'un banquier qui coordonne l'ensemble, organisation aussi qui a commencé à travers des dîners pour rassembler évidemment un pactole de campagne, au maximum, vous savez qu'on ne peut donner que 7 500 €, ça a commencé aussi, ça veut bien dire, si vous voulez, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le dépôt d'une candidature... devient de plus en plus réel. Et
tous les signes vont dans le même sens. Le fait qu'il ait mis en sommeil pour le temps, pour un certain nombre de mois, son papier régulier du Figaro, qui reprendra...
Mais pas son émission sur CNews, qui est quand même la plus importante.
J'y viens à son émission sur CNews.
Ça va venir.
Il se trouve que j'ai quelques amis là-bas. Oui. J'y vais même moi-même.
Le mercredi.
Je ne veux pas faire de la pub.
Mais il se trouve que
là, CNews est un élément intéressant du débat, puisque c'est une chaîne où il a quand même... Disons que son audience d'aujourd'hui, les 8% que lui donnent les sondages, c'est énorme, 8%. C'est largement aussi constitué par le fait qu'il a une émission d'une heure tous les jours sur CNews, et que elle marche très bien.
Qu'il ne pourra pas maintenir s'il est candidat.
Donc, il est clair, déjà, les comités d'éthique du CSA, le CSA d'une part, les comités d'éthique du groupe Bolloré, tout le monde se penche sur cette question. Et d'ores et déjà, le dispositif, à ma connaissance, est plus ou moins au point pour dire qu'à partir du moment où Zemmour commencera donc sa candidature effective, la tranche du soir qui aujourd'hui 18-20, comme par hasard, elle est faite par la même présentatrice, mais il y en a une partie commune avec Europe 1, Et oui, je regarde tous les soirs et j'écoute. 18-19, c'est sur Europe, et 19-20, c'est commun.
Qu'est-ce qu'il nous
dit, là ? Eh bien, je veux dire par là que ce jour-là, Zemmour sortira de l'antenne du soir.
Gérard,
Charles Villeneuve,
normalement, son livre sort le 16, c'est ça. La France n'a pas dit son dernier mot. Et c'est à partir de là qu'il va commencer sa tournée et donc vraisemblablement suspendre son émission.
L'interrogation, c'est quand même, on voit dans les sondages Marine Le Pen perdre un peu de voix. Ouais. Alors, je crois qu'il y a un dernier sondage avec où elle l'a simplement 19. Donc, effectivement, à qui nuira-t-il ? À qui nuira Zemmour ? Est-ce que c'est autant à Marine Le Pen ?
Sondage.
Puis, vous avez entendu, hier, toute la journée, il y a eu un échange complètement ridicule sur est-ce que Marine Le Pen accepte...
Va dîner
où est-ce qu'elle veut débattre ?
Sous l'initiative de Robert Ménard. Oui.
Il y aura quelqu'un qu'il faudra suivre aussi auprès de Zemmour, qui est une dame qui s'appelle Sarah Knafo, qui joue un rôle très important sur cette candidature, et dont on dit qu'elle est un peu sa Marie-France Garraud.
Bon, ben comme ça, ça sera.
C'est-à-dire sa conseillère politique, que Marie-France Garraud a été avec Pierre Juhet, la conseillère de Jacques Chirac.
Je déteste dire ça, mais ça tombe à pic. Affaire à suivre, donc.
Voilà.
Et nous, on va parler d'autre chose. On va parler d'un certain Nicolas Sarkozy. Tiens, dans un petit instant.